Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, et déjà bienvenue en 2024 avec Cinérama qui poursuit sa saison tranquillement avec toujours eh bien, des sorties dans les salles, ça ne s'arrête jamais. Bonjour Manu.
Bonjour.
Tu as un film aujourd'hui.
Et c'est donc Le Plongeur de Francis Leclerc, un film québécois.
Quant à Guillaume, qui n'est pas là avec nous, eh bien, il nous parlera de Priscilla de Sofia Coppola, film qui était plutôt attendu. Nous parlerons aussi de Iris et les Hommes, de Caroline Vignal, de Vermine, de Sébastien Vanisek. Mais nous allons commencer cette émission avec ce qu'il faut retenir de la fréquentation des salles en 2023. Les chiffres sont tombés.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Les spectateurs sont revenus dans les salles de cinéma. Le Centre National de la Cinématographie, le CNC, a dénombré quelques 180 millions de spectateurs en 2023. Alors évidemment, dit comme ça, ça ne dit pas plus, mais c'est une fréquentation en hausse de près de 19% par rapport à 2022, ce qui n'est pas rien, mais on est bien en deçà de l'année 2019 qui fut un record. Alors en 2023, il y a eu davantage de choix pour les spectateurs qui ont pu se tourner vers davantage de films, avec un total de 42 films qui ont franchi la barre du million d'entrées en 2023 contre 28 un an plus tôt. À noter que les productions françaises tirent leur épingle du jeu, car si en 2022 aucun film français ne parvenait à figurer dans le top 10, eh bien c'est réussi en 2023 pour trois de ces films. Les succès de l'année sont Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et il valait mieux hein, vu le budget conséquent qu'il avait. Il y a aussi Alibi.com hein, qui se classe respectivement donc 4e et 6e des films les plus vus en France cette année, sans oublier les Trois Mousquetaires d'Artagnan qui suit ces films à la 7e place avec plus de 3 millions d'entrées. La part du cinéma français qui est protégée, on le rappelle, est bien atteint les 40%. En 2020, c'était 45%, mais cette part reste inférieure à la part du cinéma américain qui atteint 41,3%, comparable à 2022, mais très loin hein, du millésime 2019 et ses 54%. Quelques films français ont dépassé le million d'entrées. Ils sont 7 en fait à avoir réussi eh bien, cela. Il y a Miraculous, le film de Jérémy Zag, avec 1,6 million d'entrées, si on compte les enfants et les parents hein, qui accompagnaient les enfants. Il y a Anatomie d'une chute, quand même, de Justine Triet, la Palme d'Or à Cannes, avec 1,3 million d'entrées. Puis il y a Tirailleurs de Mathieu Vadepied, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry, dont on avait parlé ici aussi dans Cinérama, Mon crime de François Ozon, Sur les chemins noirs de Denis Imbert et Le règne animal de Thomas Caillet. Voilà pour ces films qui ont franchi la barre du million d'entrées.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance, on va la retrouver.
Lala!
Portée par ses succès, la moyenne des entrées des 380 films français sortis en salle cette année est d'environ 160 000 spectateurs, mais la médiane est d'environ 25 000 entrées, ce qui signifie que la moitié des films français ont eu plus de 25 000 spectateurs en salle. Alors j'ai vu qu'il y avait des records, je ne sais plus, il y a deux films qui ont fait 15 et 30 entrées.
Ah,
c'est un peu dur. Mais bon, ça...
Après, il y a des films comme, bon, qui ne sont pas dans le box-office, mais comme Yannick, vu le coût du film, c'est aussi des gros succès finalement.
Ah oui, oui.
D'une certaine manière. Et voilà, il y a des petits films comme ça qui fonctionne très bien par rapport au coût initial, c'est des vrais succès. Alors que Astérix, c'est ils font beaucoup d'entrées, mais vu le budget, c'est pas si satisfaisant que ça.
Non, oui,
final.
C'est clair. Hein. Les 600 000 entrées d'Yannick, effectivement, sont nettement plus influentes sur les recettes que les 5 millions, oui, je crois, enfin pour Astérix. Alors, sinon, parlons des grands gagnants de 2023. Tu les connais, Manu? Le premier,
j'aurais dit Barbie.
Mais non, mais c'est, non, c'est super, Super Mario Bros.
Ah, et je suis étonné quand même.
Et oui. Et donc, il est largement en tête avec 7,1 millions de billets vendus. Et il est devant Barbie de Greta Gerwig avec 5,8 millions d'entrées. Et puis, alors là, la grosse surprise, c'est que ce n'est pas un film de 2023 qui arrive sur le podium de 2023, mais c'est un film sorti en 2022, fin 2022. C'est Avatar, la voix de l'eau, qui a aussi, lui, passé la barre des 5 millions de spectateurs sur l'année. Alors, il faut préciser d'ailleurs qu'en 2023, en raison de la grève des scénaristes et de la crise sanitaire, eh bien, l'offre de films américains est bien en deçà de son rythme d'avant Covid, avec seulement 81 films sortis sur les écrans contre 127 en moyenne entre 2017 et 2019.
Et puis beaucoup de films américains qui sortent directement sur les plateformes aujourd'hui, même des grosses productions. Hein. En fait, la donne, elle change un peu et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter les années à venir. Hein.
Oui, bah c'est vrai, on a parlé du Fincher notamment, mais il y en avait d'autres.
Il y en a plein d'autres. Et puis Disney, il y en aura pas mal qui vont être directement sur les plateformes, ils ne vont plus faire l'effort de les sortir. C'est un peu dommage parce que ça prive de les voir sur grand écran surtout.
Mais oui, c'est clair. En tout cas, l'été dernier, l'été 2023, a été porté par le phénomène Barbenheimer, à n'en pas douter, puisqu'il y avait 9,3% d'affluence en plus dans les salles par rapport à l'avant-crise pour le mois de juillet. C'était quasiment 14 millions d'entrées en France. Voilà quand on fait le bilan de 2023. Et maintenant, on va passer à 2024 avec le premier film que nous allons chroniquer. C'est entre drame et polar. Nous suivons un plongeur, mais pas dans une piscine, mais c'est un restaurant.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Tu as fait ça de la plonge, j'imagine?
Non, mais on m'a dit que c'était facile.
Ouais? Ben non, c'est off en tabarnak.
Le meilleur du cinéma québécois distribué dans nos salles obscures est souvent associé à un genre bien défini. Alors traité avec originalité et délicatesse, c'est le teen movie. On se souvient des remarquables Charlotte à 17 ans et Jeune Juliette. Alors les premières images du plongeur laissent penser que le film s'inscrit dans cette même veine, embrassant un point de vue masculin cette fois-ci. En réalité, le film de Francis Leclerc s'inscrit dans un registre très différent, un peu hybride pour ne pas dire mal dégrossi. Au fond, alors sans mauvais jeu de mots, l'histoire n'est pas inintéressante mais n'a rien à voir avec les aventures d'un adepte de la plongée sous-marine. Le titre correspond à un petit boulot trouvé par Stéphane, 19 ans, en tant que plongeur dans un restaurant pour éponger ses dettes, mais aussi son attirance vertigineuse pour les jeux d'argent qui l'emporte dans une spirale infernale. Le gouffre est toujours devant lui et il ne peut s'en soustraire, accro à son vice.
Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je l'aurais pas cru. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je l'aurais pas cru.
On voulait juste te dire que, ben, qu'on est bien fiers de toi, ta mère pis moi.
Que j'ai vraiment besoin de cash.
Il est rare, voire inédit, au cinéma d'assister à un film qui aborde la dépendance au jeu sur un jeune de moins de 20 ans qui, de surcroît, ne fume pas, et plus rare, ne nourrit aucune fascination pour les drogues. Il boit juste des bières et des shots dans des pubs, rentrant chez lui souvent ivre, comme beaucoup de gens bossant dans la restauration. Le problème, c'est que toute cette partie autour des machines à sous, de l'ivresse qu'elles peuvent procurer, n'est traitée que superficiellement à l'écran. De même, ce jeune homme d'une famille non pas aisée, mais d'une classe moyenne, n'a pas l'air en réel danger un seul instant, ses créanciers étant seulement ses potes, déçus de son comportement. Alors finalement, cette situation est très banale et il est fort possible que vous ayez connu quelqu'un dans cette impasse temporaire dans votre environnement. Cette approche un peu dédramatisée est peut-être plutôt réaliste et peut-être intentionnelle de la part de Francis Leclerc, mais manque singulièrement d'impact. En contrepartie, l'effet inverse se produit dans son métier de plongeur. Et là aussi, il est presque évident que le réalisateur assume son parti pris. Alors, dès qu'il est embauché dans le restaurant La Trattoria, le nom italien d'ailleurs n'est pas un hasard, Stéphane découvre une faune louche qui trafique à droite à gauche, fricote avec des gens plus ou moins de la pègre locale. Alors, dans ce milieu du travail de l'ombre, du côté des cuisines, le film s'emballe et spectacularise le moindre détails, insufflant un rythme tapageur assez virtuose, mais rapidement épuisant. Alors la mise en scène s'inspire clairement du cinéma de Martin Scorsese, en l'occurrence Les Affranchis, le modèle quand même un peu trop grand pour les jeunes épaules du cinéaste. Scorsese est par ailleurs ouvertement cité pour Gangs of New York, dans une scène un peu inutile, juste dialoguée. Je crois que c'était juste pour citer le titre, pas autre chose. Dès l'ouverture, la voix off domine, donnant chez l'italo-américain une pulsation au déroulé de l'histoire à la manière d'une comédie musicale. La BO est composée d'excellents morceaux des années 90-2000. Le récit se déroule d'ailleurs en 2002. Le montage est cut, les ralentis sont nombreux et la caméra en perpétuel mouvement.
Ce qui est bien important de comprendre, je jouais pas pour me refaire. Je jouais parce que j'aimais le feeling de jouer.
3, 2,
1! À quelque part, ça faisait mon affaire de pas avoir le temps de penser à mes histoires. Même si j'étais pas certain d'être à bonne place. Je savais que c'était mieux d'être là que dans le fond d'une taverne louche devant une machine.
T'es un bon Jack, toi. T'as soit une asti de belle année.
Je me suis dit que j'allais essayer de rester le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir.
Alors Francis Leclerc fait preuve d'un certain talent d'imitateur avec son exercice de style tantôt plaisant, tantôt irritant. Alors plaisant pour sa galerie de personnages excentriques, sa description juste du monde interlobe de la restauration, les morceaux en fait de Neil Young, Radiohead ou Ben Harper et ses saillies d'humour souvent bien senties. Alors un peu irritant pour le reste, hein, soit cette complaisance pour une noirceur là où elle ne devrait pas être aussi extrême alors que l'on l'attend ailleurs. Le sujet central, l'addiction qui n'est pas vraiment traitée et surtout cette forme qui ne convient pas au film, aussi brillante soit-elle en surface. Techniquement habile, hein, doté d'une belle photographie, le plongeur ressemble au final davantage à du Guy Ritchie ou du Danny Boyle première manière, qui déciderait donc d'aborder un drame social à la Dardenne dans un style flamboyant et tape à l'œil. Pas sûr que ce soit l'idée du siècle, d'autant que le film se termine très gentiment, avec une rédemption un peu bidon, qui ressemble plus à un happy end de téléfilm qu'à un geste fort à la Martin Scorsese. Le jeune interprète Henri Richer Picard hein, est un beau gosse, hein, il attire la sympathie, mais son jeu est terriblement monotone, il n'habite jamais son personnage, sans être un mauvais comédien, il est plutôt bon, mais quelque chose ne fonctionne pas, alors, il y a un manque d'empathie envers lui. Hein. Alors Francis Leclerc a du talent, c'est sûr, mais il devra à l'avenir peut-être l'investir alors, dans un autre type de récit, à mon avis, s'il souhaite rester sur le registre un peu de ses modèles, dont Martin Scorsese, et trouver peut-être un sujet qui a plus de hauteur que l'histoire d'un plongeur dans un restaurant. Voilà.
En tout cas, vous pouvez aller voir Le Plongeur, puisqu'il est en salle depuis le 3 janvier. Iris, Lorca Lamy veut retrouver le désir et est en quête d'amant. C'est Iris et les hommes de Caroline Vignal.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Il se passe plus rien entre nous. Au lit.
Oui, ça suffit.
Vous avez pensé à prendre un amant ?
Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés.
En 2020, Caroline Vignal avait créé la surprise avec Antoinette dans les Cévennes, une comédie portée par Lorca Lamy et Lan Patrick, qui avait rassemblé près de 700 000 entrées après une réouverture des salles très attendue. Alors que cette comédie nous plongeait dans la nature verdoyante, son nouveau long-métrage Iris et les hommes nous place à Paris et pas en été. Si la réalisatrice a changé d'environnement, elle a conservé son actrice, Lorca Lamy, qui avait été récompensée pour le précédent film d'un César et qui depuis eh bien, a été vue dans de très bons films. Hein. Mais le retour en ville est moins flamboyant que la virée dans les Cévennes.
Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît ?
C'est pour Doctolib. C'est obligatoire maintenant.
Ah bon ?
Bah oui.
Alphonse Carnezon.
C'est qui ?
Le Bon Coin. C'est incroyable, hein ? Les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir.
T'es mariée depuis combien de temps ?
16 ans.
Je suis divorcée.
J'ai pas l'intention de quitter mon mari.
Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on peut pas revenir en arrière. Comme des portes qui s'ouvrent. C'est infini.
Chauvi que tu m'embrasses.
Dans Iris et les hommes, on suit donc Iris, une chirurgienne dentiste qui a un mari architecte depuis 20 ans, qu'on voit sans cesse derrière son ordi, deux filles brillantes à l'école et une vie ronflante, alors si ronflante, que dans le lit, on n'y fait que dormir. Iris n'a plus fait l'amour avec son mari depuis 4 ans, dit-elle. Ça commence à l'inquiéter à l'aube des 50 ans. On lui conseille de prendre un amant et pour le choisir, de ne pas trop finasser et d'employer les moyens actuels, à savoir une appli. Alors on passe sur l'étonnement de cette femme bourgeoise hein, qui découvre l'existence d'une application de type Tinder. Toutefois, le parti pris de mise en scène de Caroline Vignal est bien de nous montrer qu'elle ne maîtrise pas les codes de la rencontre version numérique. Mais passé les premières rencontres timides, eh bien Iris se sent de plus en plus à l'aise avec cet appel d'une liberté qui la force quand même à déprogrammer des rendez-vous et mener son assistante médicale au surménage. Le problème, c'est que si les premiers pas dans ces rencontres tissées par le numérique sont propices à l'amusement, on suit une scène olé olé avec Laurent Poitrenaud qui fait un striptease après avoir expliqué la révélation que lui a apporté le polyamour, eh bien les répétitions appesantissent le récit. Oui, les hommes sont divers, caractère, leur physique, leur démarche, leur manière de parler, de s'habiller, mais ils ne sont qu'accessoires la plupart du temps. Et tout n'est pas prétexte à la comédie et à la fantaisie, loin de là.
Faut apprendre à dire oui, découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser, oui. Jouir. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. De toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir.
Au plaisir.
Le problème d'Iris est les hommes et son rythme et sa construction. Alors dans sa construction, il est effroyablement daté, je trouve, car la réalisatrice fait apparaître alors les messages que les amants s'écrivent à l'écran, hein, parce qu'ils sont sans cesse en conversation sur cette appli. Alors beaucoup de films cherchent des idées de typo et de forme. Ici, c'est la simplicité qui a prévalu, hein, de simples textes qui s'affichent en temps réel et le son des notifications sur vibreur. On perçoit que l'aspiration vers une quête de la sexualité retrouvée est grande, hein, chez Iris, et cela va jusqu'à des moments de fantaisie où elle divague. Alors c'est dans le métro avec une séquence complètement irréaliste, hein, avec des hommes qui la charment. C'est aussi une séquence de comédie musicale qu'on n'avait pas vu venir en banlieue et dont on se serait bien passé. Elle montre la même chose que ce qu'on voyait dans le métro. Il y a tant de corps d'hommes, tant de caractères qu'on n'en a jamais fait le tour. Alors Iris va mieux, le corps va mieux, et c'est ainsi que la parole aussi s'exprime jusqu'à mettre la famille en sursis. Une séquence sur le consentement comme s'il s'agissait d'un précepte que l'on rabâche sans y penser semble discutable, d'autant que c'est suivi d'une séquence sur un rendez-vous sadomasochiste, comme s'il fallait surligner le propos avec une dimension morale, mais quelque peu burlesque aussi, parce qu'on reste dans la comédie. En conclusion, cette comédie, qui prend un thème récurrent, hein, la perte et la renaissance du désir, tient surtout à Lorca Lamy, qui est de tous les plans, même si cela ne suffit pas à insuffler suffisamment de rythme, à défaut de fantaisie. Iris et les hommes est en salle depuis le 3 janvier. Qu'est-ce que le cinéma ferait sans biopic ? En voici un sur Priscilla, qui a vécu avec le King. C'est le dernier film de Sofia Coppola.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Ouais. What's your name ?
Priscilla Boyer.
You like Elvis Presley ?
Of course. Who doesn't ?
Sofia Coppola s'est faite le chantre des voix féminines évanescentes, perdues, hein, plus tout à fait jeunes filles et pas forcément encore femmes dans leur entièreté, jamais insérées, hein, dans le monde dans lequel elles évoluent et qui vont essayer d'en sortir par la petite porte ou par des déambulations oniriques à l'issue parfois tragique. Alors la manière d'y parvenir est souvent une façon, hein, d'enfin trouver sa propre identité, de marquer ce monde et son entourage d'un caractère enfin défini et de pouvoir enfin commencer à l'influencer dans sa totalité. En cela, Priscilla, hein, n'est pas éloigné, hein, de Virgin Suicide, Lost in Translation, Marie-Antoinette, Somewhere et The Bling Ring. Alors si on avait envie de faire de la psychologie de comptoir, hein, on pourrait dire que la réalisatrice réalise, hein, à chaque fois, hein, une mise en scène de sa propre personne étant une fille d'eux venant, hein, d'un milieu aisé et qui a grandi entourée de coton et qui a cherché à se faire un prénom au sein de l'usine à rêve d'Hollywood et d'un univers fait de faux-semblants. Sauf que Sofia Coppola, désormais 52 ans, n'est plus une jeune fille en fleurs et que la non-évolution de ses obsessions juvéniles amène un variablement son cinéma, à perdre petit à petit de son intérêt pour donner aujourd'hui un film particulièrement irritant qui, sujet oblige, va forcément faire un peu polémique.
You don't have to worry about it. Black hair and more eye makeup.
I don't know if I like it.
Priscilla est un biopic, comme son nom l'indique, de Priscilla Anne Wagner ou Priscilla Beaulieu, suivant les appellations, qui deviendra bien sûr célèbre sous le nom de Presley, hein, une fois que l'interprète de Love Me Tender lui passera la bague au doigt et lui fera un enfant. Alors on assiste ici à la rencontre de Priscilla avec Elvis, hein, le début de leur idylle, et le début du cauchemar pour la jeune femme, hein, la jeune fille devenue femme et qui va progressivement vouloir se détacher de son couple et de son trop célèbre mari. Alors le souci est que, comme son nom l'indique, Priscilla parle de Priscilla, c'est-à-dire un personnage sans caractère et dont le relief s'arrête à la photographie Instagram du chef opérateur Philippe Lesourd, qu'on a connu bien plus inspiré sur Atomic Circus, hein, des frères Poirot, ou The Grandmaster, hein, de Wong Kar-wai. Alors Jacob Elordi, hein, et au fond tout le film, a la lourde tâche de passer après le Elvis de Baz Luhrmann sorti il y a à peine un an et demi et dépeint un chanteur et homme à l'inverse total du portrait fait par l'extravagant réalisateur australien et l'acteur Austin Butler, dont les qualités, certaines, en firent un gros succès public. Dans Priscilla, Elvis est un homme normal, voire même affable, effacé derrière un succès qu'il ne maîtrise pas. Il n'est pas le point de convergence de tout le monde lorsqu'on entre dans une pièce, ce qui est étonnant, quand on se retrouve, au début de la projection, bah essayez de le retrouver dans le cadre pour l'identifier. Alors c'est dire si le charisme de la légende du rock'n'roll est totalement absent du long métrage, au profit du portrait peu flatteur d'un lâche, plutôt amorphe, qui confine rapidement au ridicule, vu le peu de dimension qui lui est apposée. Alors la règle élémentaire de mathématiques voulant qu'une double négation équivaut à une affirmation, tombe à l'eau, tant les deux personnages principaux, complètement creux, tirent vers le bas toute identification et implication du spectateur.
I want a life of my own.
Quant à la postérité du film, elle est déjà remise en question tant il a été décrié par la fille d'Elvis et de Priscilla, Lisa Marie Presley, qui a ouvertement communiqué juste avant sa mort très récente qu'elle ne reconnaissait pas du tout son père dans le script qui lui avait été confié par la production et qu'elle s'opposait à dire du bien de l'entreprise tant elle était choquée par la démarche de Sofia Coppola. Et quand bien même le film est adapté des mémoires de Priscilla Presley, sa mère donc, qui elle soutient la production. Alors de même, les ayants droit d'Elvis ont refusé de prêter la musique de l'icône, ce qui a forcé la réalisatrice à ruser en recréant des morceaux de cette époque via des reprises et en convoquant les talents de son mari, le chanteur du groupe Phoenix. Alors ne restera donc de Priscilla que la polémique et quelque part, c'est tant mieux pour le film car c'est bien sûr ce dernier point et uniquement celui-là qu'on pourra associer de la vitalité à ce long métrage qui se veut contemporain dans ses préoccupations mais qui use d'un rythme et d'une rhétorique d'un autre âge pour parvenir à ses fins peu glorieuses, un petit peu comme le Napoléon de Ridley Scott.
Allez, avant de retrouver la dernière chronique de cette émission, on va faire un petit détour vers la bande originale de ce film Priscilla, qui prend des petits airs de gospel. Sofia Coppola est en salle depuis le 3 avril. Des araignées prennent possession d'un immeuble et on a la frousse, c'est Vermine de Sébastien Vanisek.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Ok, on panique pas. On panique pas.
Le cinéma français en pince pour le genre ces derniers temps, compensant Titan qui a remporté la Palme d'Or ou à Règne Animal, incontestablement un grand film de 2023. Les producteurs français suivent les cinéastes qui ont autre chose à proposer et c'est le cas de Vermine. Alors Vermine au pluriel, un film de monstres, de petits monstres, soit des araignées qui sont, comme le disent à de nombreuses reprises les personnages, un peu vénères.
Elle doit être dead quelque part en fait, si c'est une putain d'araignée du désert. Tu vois ce que je veux dire? Si je la mets dans une chambre où il fait moins 15 000, elle meurt de froid la pauvre.
Il est où le cocon ?
Il est là le cocon, qu'est-ce pas ?
L'envie du réalisateur Sébastien Vanissek et du scénariste Florent Bernard, à qui l'on doit les séries La Flamme et Le Flambeau et le film Jacques Mimoun et le secret de Valverde, était de bousculer le spectateur avec une promesse de grand divertissement, comme ils l'ont indiqué dans une interview. Et de ce côté-là, eh bien, c'est réussi. Du divertissement, il y en a, car les bestioles font très vite leur entrée. À la manière de l'Exorciste, c'est d'abord loin du pays où va se dérouler l'histoire que nous nous trouvons. Ici, la séquence inaugurale s'annonce comme un avertissement. Des hommes débusquent une araignée qui semble redoutable pour peu qu'on s'attaque à elle. Le spectateur a une longueur d'avance sur Caleb Théochristine, celui qui incarnait Joe Starr dans le film Suprême. Or, ce Caleb, qui habite l'emblématique cité des arènes de Picasso à Noisy-le-Grand, achète une araignée qui va prendre place dans sa chambre où sont installés des vivariums. Sauf que la place de l'araignée n'est pas définitive, sa petite cage est un peu leste.
Comment t'as fait pour pécho ça ?
Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre.
Non, mais tu sais qu'il leur parle,
pas sérieux.
Je te promets, meuf.
T'es où ? Cache, Théo. Tu te fous de ma gueule.
Le film se démarque d'autres films de genre par le choix assumé des réalisateurs de placer leurs personnages et les petits monstres préoccupants dans l'environnement de la banlieue. Alors une banlieue positive montrée sous l'angle de l'entraide, de la communauté, de la solidarité, avec de jeunes personnages qui, on le voit, sont dans la galère et la débrouille. Et c'est avec une sorte de second degré que l'image d'une banlieue gangrénée par le trafic va faire son apparition. Alors que Caleb fait du trafic de basket, hein, un des habitants de la tour est convaincu qu'il vend du shit, comme s'il était déterminé par son milieu et son lieu de résidence. Ce personnage ne va jamais cesser de vouloir démasquer le jeune homme. Et là encore, eh bien, le spectateur a une longueur d'avance et sent bien que tout cela va mal se terminer. Autre intérêt de Vermine, c'est la qualité de ses effets spéciaux qui prennent toute leur valeur avec des effets de mise en scène jouant sur le jumpscare, ce qui est une habitude pour le genre horrifique, mais aussi sur un travail des arrière-plans, de quoi insuffler la frousse à peu de frais.
Ça fait un malaise, c'est ça ?
Sa gueule, c'était pas un malaise, ça.
Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non ?
Il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue.
Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors ?
Le film file la parfaite analogie quand les habitants de cette tour, suite à la mort suspecte d'un des habitants mordus par une araignée, doivent rester confinés chez eux. Araignées contraintes par un milieu qui n'est pas le leur, face à un prédateur, l'homme qui use de chaussures, de bombes insecticides pour l'exterminer, et des habitants contraints de rester cloîtrés chez eux, mis sous clé par des forces de l'ordre qui ne font preuve d'aucune volonté de communication. Le titre « Vermine » est à double sens, et ils auraient placé « racaille, sapace et crème ».
Chaud.
C'est ainsi qu'à la manière de cette araignée qui s'échappe de sa cage, les personnages principaux, un groupe d'amis quelque peu désunis, autre fil dramaturgique tiré par le réalisateur, vont devoir aussi échapper aux bestioles et aux forces de l'ordre en choisissant de quitter la tour qui les a déterminés. Le film oscille entre gestion de la peur du spectateur et un second degré assumé par des scènes et des dialogues alors plutôt bien sentis. Le scénario pêche quelque peu sur certains points, l'explication de la prolifération de ces arachnides notamment, ou un personnage participant à des tournois de MMA un peu maigrelet et qui ne s'en sort pas si bien dans les situations de contact. Mais rien qui ne puisse entacher le plaisir de voir des hommes tenter de survivre face, alors non pas à un gros monstre, mais à la multiplication de petits monstres. Car Vermine, c'est avant tout cela, comment échapper à ce qui se multiplie trop vite. Vermine, c'est un film que tu as vu.
Oui.
Tu peux peut-être en dire quelques mots.
Oui. Alors, tu parlais de second degré, mais en même temps, le traitement du genre horrifique, il est très frontal, il est très premier degré, et c'est vraiment là que le plaisir est réel. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'il a voulu faire, c'est une vraie série B, un peu même à l'américaine, il faut le dire, dans un contexte géographique que l'on connaît un peu ou lointainement, selon les gens, en fait. Mais c'est vraiment ça que moi, j'ai apprécié. C'est le côté très de l'aborder très frontal et très simplement. Et ça fonctionne du tonnerre. Il y a vraiment des séquences qui foutent la frousse, quoi.
Oui.
L'arrivée des araignées, à chaque fois, c'est très, très bien fait. Alors que le budget n'est pas énorme.
Non, je n'ai pas vérifié. Mais
je crois que ça tourne autour de 3-4 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et puis surtout, ça part d'un court-métrage au départ. Et souvent, c'est problématique de partir d'un court-métrage et de faire un long, je connais peu d'exemples de réussite, et puis là, c'en est une.
Même si ça s'essouffle un peu par la fin. Alors le second degré, moi, c'est plutôt dans les dialogues et
dans les situations dialoguées. Oui, mais ça, c'est l'humour. On va le retrouver dans les séries B américaines aussi. Ouais. Hein, mais alors moi, j'appellerais pas forcément ça du second degré. C'est plutôt une forme d'humour, de distance, plus que du second degré. Alors que le film est vraiment, enfin, on se le prend en pleine poire. Mmh. Moi, j'étais dans une salle où d'habitude ça chahute dès qu'il y a un film d'horreur. Et là, à part pour crier quand il y avait des scènes où il fallait crier, les gens, ils ne disaient rien, quoi.
Enfin, ouais. Moi aussi, salle avec une très bonne réaction effectivement du public.
Bonne, mais où il faut, en fait. Ouais. Voilà.
Et plutôt des jeunes spectateurs que j'ai vus. En tout cas, Vermine est en salle déjà depuis 2023.
Alors.
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras encore un film d'horreur.
Encore un film d'horreur qui s'appelle Night Swim.
Et puis la semaine prochaine, nous accueillerons une nouvelle chroniqueuse dans Cinérama, c'est Sophia qui nous rejoindra et qui nous parlera de Bonnard, Pierre et Marthe, dernier film de Martin Provost. Et moi, je vous parlerai d'Un silence, excellent film de Joachim Lafosse. Et on aura d'ailleurs l'occasion d'écouter le réalisateur belge. À la semaine prochaine.